19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
Les informés des quartiers, bienvenue et merci pour cette grande famille qui pousse, vous le savez. Nous sommes le vendredi et le vendredi, donc nous sommes ensemble jusqu'à 20h, 19h-20h pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Chers amis auditeurs, eh bien c'est parti au menu des informés des quartiers, chers amis. Eh bien, tout d'abord, nous allons parler de la colère des agriculteurs. À la fois, il y a la proposition de Gabriel Attal, le tout premier ministre, mais également aussi, qu'ont-ils répondu ? Est-ce qu'ils ont décidé d'arrêter le blocage ? Parce que la France, on peut le considérer qu'elle est complètement paralysée. Sachez-le que, effectivement, les agriculteurs se sont emparés de Paris. Alors, nous serons dans une poignée de minutes puisque on sera avec la présidente de la coordination rurale de France, madame Véronique Le Floch, qui sera avec nous dans une poignée de minutes. Et puis les débatteurs influenceurs, ils sont là autour de ce plateau. On reviendra aussi sur cette mobilisation des agriculteurs, mais pas que. Nous reviendrons aussi sur cette colère. La loi immigration, chers amis. Alors, vous savez qu'à Saint-Denis, justement, la ville de Nabila Takach, il y avait des blocages qui ont été organisés à la fois par des étudiants, par des lycéens, par des sympathisants, bref, beaucoup sont venus bloquer et faire part, évidemment, de leur mécontentement. Nous en reviendrons sur ça et nous en parlerons. Nous reviendrons aussi sur un autre sujet d'actualité, c'est ils souhaitent qu'elle s'en aille. Alors, on ne comprend pas très bien, mais on va en parler. C'est Gabriel Attal qui était outré à la fois par la toute nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Donc, on reviendra sur, évidemment, cette déclaration. Vous, au 01 53 48 3000, vous nous appelez et vous passez à l'antenne en toute liberté d'expression, quand vous voulez, jusqu'à 20h, au 01 53 48 3000. C'est parti !
Les informés, le face-à-face.
En attendant donc l'interview, on a un peu de mal à contacter Véronique Le Floch, madame la présidente de la coordination rurale de France. On va tenter de la joindre. Dans une poignée de minutes, elle sera avec nous. J'accueille les débatteurs influenceurs, c'est parti. Maître David Libeskind, bonjour.
Bonsoir.
Comment ça va, maître ?
Ça va très très bien.
Tout va bien ?
Ouais, j'ai une belle audience cet après-midi. Donc
belle audience ?
Je suis assez content.
Le retour de Zaafman. Ah, ça le fait rire. Il aime bien quand je l'appelle comme ça, c'est John.
Salut Adil.
Vous aimez bien Zaafman ?
Ouais, c'est pas mal, ça reflète une bonne personnalité.
C'est vrai. Vous avez bien raison, ça reflète une personnalité. Un autre Zaafman, mais lui, pour le coup, il représente Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est. Oui, Saint-Denis, non. La Seine-Saint-Denis. Il est le représentant de Renaissance. Renaissance, qui est le parti de Macron, le chef de l'État.
Quel courage.
Bonjour Emmanuel. Bonjour Nabil Takach.
Bonsoir Adil.
Comment ça va ?
Ça va bien.
Ça vous fait quoi, sourire ?
Non, c'est votre lapsus, m'appelez Emmanuel.
C'est un petit lapsus voulu, hein, voulu.
C'est un signe. Hein,
pour les voulu. Bon, en attendant de joindre Véronique Le Floch, messieurs, nous allons parler de la mobilisation des agriculteurs. Gabriel Attal qui a fait quelques propositions. Il a rappelé donc qu'il est revenu sur le gazole non routier. Il est revenu sur ces 10 mesures sur lesquelles, évidemment, il peut essayer de faire évoluer les choses. La colère persiste, la colère aussi, elle augmente. D'abord, que peut-on dire, Nabil Takach, vous, évidemment, de ces mesures déclarées tout à l'heure par Gabriel Attal, le Premier ministre ?
Alors, peut-être avant de parler des mesures, expliquer ce qui se passe, la colère des agriculteurs, qui est une colère qui est légitime. Je pense que le monde agricole, on le sait, souffre beaucoup. Après, c'est très très difficile en ce moment. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des agriculteurs qui ne peuvent pas vendre leur production à un juste prix. Sur le premier mandat, une loi a été passée qui s'appelait la loi Egalim pour justement aider les agriculteurs à vendre leur production aux grandes distributions à un prix beaucoup plus juste. Ça a marché. Aujourd'hui, tout le monde ne joue pas le jeu.
Ouais.
Et parmi les annonces de Gabriel Attal, du Premier ministre, il y a aussi, alors qui date de cet après-midi. Alors justement, je repose juste le contexte et ensuite, ouais, si vous voulez, les auditeurs comprennent aussi ce qui se passe. Faudrait qu'ils comprennent aussi dans quel monde les agriculteurs.
Mais je crois qu'ils ont compris parce que ça fait quand même depuis une semaine qu'on en parle.
Non, parce que regardez, on a tous notre part de responsabilité. C'est-à-dire que les agriculteurs français, c'est une agriculture qui coûte cher. Et ce qui fait que, en fait, les consommateurs souvent privilégient des produits qui coûtent moins cher.
Parce qu'on a pas d'argent.
Ces produits viennent d'où ? Ils viennent d'une concurrence de d'autres pays. C'est ce qui fait qu'en fait ils peuvent acheter aussi des produits à moindre coût.
De Chine par exemple.
De pas pour l'agriculture.
L'Ukraine,
pas pour
l'agriculture.
Bah, les pommes.
L'Ukraine, l'Afrique du Nord.
L'Ukraine vous avez, pour le blé.
Vous avez des fraises qui viennent du Maroc. Oui. Vous avez aussi des fruits qui viennent d'Espagne.
La poire qui vient de Chine aussi.
À un endroit où ça coûte moins cher de produire. On a une agriculture qui n'est pas assez compétitive.
Le monde, c'est moins cher. C'est
comment?
Ça traverse le monde entier, des fois, et c'est moins cher que...
Mais oui, mais parce que le coût du travail est moins cher. Donc, nos agriculteurs, en France, se retrouvent dans une situation extrêmement complexe. Extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des normes, ils croulent sous les normes. Mmh. Parfois, des normes qu'il va falloir simplifier. Le Premier ministre explique, aujourd'hui, annonce qu'il va supprimer un certain nombre de normes qui n'ont pas de sens. Et l'autre défi de nos agriculteurs, c'est déjà le coût du travail qui est plus élevé, mais en plus, on souhaite avoir une agriculture durable, qui soit en comment dire pour pouvoir. Alors, et donc, en Amérique latine, par exemple, ils n'ont pas toutes ces contraintes. Et c'est le défi dans lequel on est. C'est-à-dire que nos consommateurs doivent avoir des produits le moins cher possible, d'où le recours à l'importation, et en même temps aider nos agriculteurs pour pouvoir aider quand ils en ont besoin.
Donc si je comprends bien, moi je comprends bien un truc, c'est que c'est pas de la faute de Macron, c'est de la faute, c'est notre faute. On est tous responsables. Moi, je suis pas responsable.
Non, responsable, c'est-à-dire, on a tous une part de nous. D'accord. Dans notre consommation.
Alors,
dans
moi,
notre
consommation, moi, on est français tant que je peux, parce que c'est
justement
cher.
Parce que c'est officiel là, ça vient de tomber.
Mais moi, je suis désolé.
Les agriculteurs, eux, ils sont déçus des annonces de Gabriel Attal.
Pour revenir à ça, déjà, c'est pas des mesures, c'est des mesurettes. Parce que les agriculteurs, ils ont posé 141 demandes. On leur a donné 10. C'est un carcan politique, c'est-à-dire c'est du blabla blabla. Il a flatté l'ego des agriculteurs, et c'est bien, il a raison. Il faut les flatter, ces gens-là, c'est grâce à eux qu'on mange. Mais au final, il n'a rien apporté de concret aux gens qui bossent et qui galèrent. Moi je le vois, j'ai des agriculteurs à côté de chez moi, je viens de l'Oise, les mecs. Alors oui, pour le gasoil, c'est peut-être intéressant sur le moment, mais si le gasoil augmente, ils paieront.
Ce qui m'étonne toujours et ce qui me fascine,
141 mesures et il en a proposé 10.
C'est que les gens commentent des mesures qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes et dont ils ne maîtrisent pas du tout les tenants et les aboutissants. Sur le gazole, il y avait une taxe, une augmentation progressive de la taxe.
Ouais, c'est supprimé.
C'est supprimé.
Non, tu dis n'importe quoi, c'est la fin de l'augmentation.
La fin de l'augmentation progressive.
C'est pas la taxe.
Oui, la fin de l'augmentation.
C'est la taxe.
Non, la fin de l'augmentation.
Il va revenir dans 6 mois.
C'est vrai, c'est la fin de l'augmentation et non pas la taxe.
Les gilets jaunes sont descendus dans la rue contre une taxe. Les gilets jaunes étaient descendus dans la rue contre une taxe. Et au final, quelques années après, on a remis.
C'est ce que je viens de dire.
La taxe n'est pas supprimée.
J'ai dit la fin de l'augmentation est supprimée. La fin de l'augmentation progressive.
Jusqu'à quand?
Jusqu'à 2030. Elle était prévue jusqu'à 2030. Elle est supprimé. D'autre part, c'est-à-dire que avant, c'est-à-dire que les agriculteurs, ils ont une exonération, les agriculteurs, faut le dire. C'est-à-dire que sur le gasoil qu'ils payent, ils ont une exonération. Ce qu'on fait, ce qu'on propose, c'est que cette exonération-là, elle soit pas avancée, ensuite remboursée, c'est qu'elle soit tout de suite faite et que c'est l'État qui paye la part des agriculteurs. C'est quand même ça, c'est pour aussi soulager. Derrière, vous avez un certain nombre de dispositions, de normes qui pèsent sur les agriculteurs, des trucs administratifs qui n'ont aucun sens.
Vous l'entendez, ça?
Pourquoi avoir attendu que les mecs qui bloquent le pays pour répondre à ça? Ça fait 30 ans que les mecs qui tapent sur la table à un moment donné. Soit Macron, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir. Donc, soit il aurait pris des bonnes mesures et il aurait dit « Je vous ai entendu, je vous ai compris ».
Il l'a fait avec la loi Egalim.
Non, vous ne pouvez pas dire qu'il a rien fait. La loi Egalim. Il a fait la même chose avec les gilets jaunes, avec le grand débat. Il est où le grand débat? Sont les cahiers de doléances? On ne sait pas, on ne l'a pas entendu. Notre-Dame a brûlé. Donc à un moment donné, quand Macron devait parler, Notre-Dame a brûlé, pas de problème. Mais pourquoi il n'est jamais revenu dessus? Mais c'est pareil, c'est des belles paroles pour rien. En fait, c'est du vent. Et vous verrez que les mecs, ils vont comprendre. Et à un moment donné,
mais c'est ce que disent les agriculteurs.
C'est du vent.
Ils disent, on était là en 2019, on est là en 2023.
Des beaux discours de beaux politiciens.
Bon, il y a plusieurs aspects. D'abord, en fait, tu vantais la loi Egalim, mais bon.
Mais moi, je dis qu'elle gros dysfonctionnements.
Laisse-moi parler. Comment tu peux la vanter, puisqu'ils sont tous dehors, les agriculteurs? On n'a jamais vu un conflit avec les agriculteurs aussi fort. Ils arrivent même sur Paris. Il y a des péages qui sont bloqués partout dans toute la France. Donc c'est cette loi, en fait, elle était complètement inefficace. Comme tu l'as dit, elle prévoyait pas de sanctions. En tout cas...
Qu'est-ce que c'est qu'Egalim? Non, pardon, je vais revenir dessus parce vous enfumez les auditeurs.
C'est du macronisme qui enfume les auditeurs.
Laissez-le nous exposer ce qu'il a envie de dire et puis ensuite vous allez réagir. Ne vous inquiétez pas. On est là jusqu'à 20h.
Là, vous venez de dire que les agriculteurs ne veulent pas d'Egalim. C'est pas du tout ça. Egalim, qu'est-ce que c'était? C'était une loi sur le premier mandat qui mettait autour de la table les agriculteurs et les industriels, pour les distributeurs notamment, pour leur dire maintenant, c'était sous l'égide de l'État, vous payez aux agriculteurs un juste prix. Il y avait une formule qui était calculée, qui permettait aux agriculteurs de... Voilà. Maintenant, tout le monde n'a pas joué le jeu. Tout le monde n'a pas joué le jeu. Mais on n'est pas dans une économie dirigée à la soviétique. Donc le gouvernement annonce aujourd'hui, partant du principe que la loi Egalim n'est pas suffisamment respectée par les industriels, quand ils achètent leur production aux agriculteurs, leur dit maintenant, si vous ne payez pas un juste prix aux agriculteurs pour leur production, on vous sanctionne.
Alors pourquoi les agriculteurs sont mécontents, parce que les mesures, visiblement, les annonces ne suffisent pas. Pour quelle raison?
Alors, d'une part, ça, ce sont les premières mesures. C'est-à-dire qu'il faut répondre tout de suite, vite. C'est quand même un effort. Il n'y a pas eu d'effort de cette ampleur dans les 10-15 dernières années. Ah, ça, même voir les 20-30 dernières années. Il n'y en a pas eu. Bref, et donc, dans un mois et demi, il y a une nouvelle loi agriculture qui va venir. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir aussi avoir un débat. Mais il faut déjà répondre. Un fonds d'urgence, moi, je ne pense pas que 50 millions d'euros débloqués pour les agriculteurs pour les aider.
Mais c'est peanuts, c'est que dalle, 50 millions d'euros. Et Macron va donner 6 milliards à l'Ukraine. On donne 6 milliards à l'Ukraine et on donne 50 millions aux agriculteurs. Je suis désolé, je relativise. Attends, mon pays, c'est la France. Les gens, ils galèrent à manger.
Mais quel Rassemblement National?
Moi, je suis pas dans la politique. Pour moi, c'est tous des mange-merdes, la politique.
Alors, John, il est macroniste en premier. John, c'est une ancienne figure, je le rappelle, emblématique des Gilets jaunes. Un influenceur.
Bah oui, mais c'est Rassemblement National qui dit ça.
Attendez. Maître David Libeskind. Et personne ne le coupe, s'il vous plaît. Allez jusqu'au bout. John, s'il vous plaît, maître, vous êtes là. On est là pour échanger et débattre. Il n'y a aucun problème. Maître David.
Alors déjà, tu ne maîtrises pas du tout le dossier, puisque toi, tu pensais que l'attaque sur la fiscalité...
Non, mais on ne va pas revenir là-dessus. J'ai dit la fin de l'augmentation progressive. C'est ridicule, en fait. C'est absolument ridicule. Il a corrigé. Parce que ça a été corrigé dans l'instant. Apparemment, tu dis que tu es le seul à maîtriser le dossier. Il a corrigé.
Alors, deuxièmement, quand tu parles des distributeurs alimentaires, tu sais de combien ils ont augmenté leur marge?
Je voudrais savoir le chiffre. Moi, je connais pas tous les chiffres. J'ai pas la prétention de tout connaître.
Quand tu fais une loi, tu prévois, d'après tes propos, un juste prix, entre guillemets, une loi, en fait, qui propose un juste prix, enfin qui négociation avec un juste prix entre les distributeurs et les producteurs et qui ne prévoit pas de sanctions, c'est pas une loi en fait.
Mais ça a été annoncé ce soir.
Donc
voilà, comme je rappelle, la loi Egalim, entre guillemets, prévoyait effectivement qu'il y ait plus ou moins un juste prix entre les distributeurs alimentaires et les agriculteurs. En tout cas, bon, ça peut être le cas, puisque c'était incitatif, mais elle ne prévoyait pas de sanctions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, la mesure qui est proposée par le gouvernement, c'est prévoir des sanctions si... les distributeurs. Mais
c'est une bonne chose.
Voilà, ne respectez
pas. Est-ce que c'est une bonne chose?
Je te pose une question simple.
C'est une bonne chose.
Quand tu prévois une loi, Quand, bah, en fait, quand tu prévois la loi, bah, tu prévois à l'avance une sanction. Si la loi n'est pas respectée.
Les grosses sociétés, ils ont fait des marges et des plus. Ils ont fait du bénéfice.
En gros, j'ai mettre les biscuits. J'ai bien compris.
Et je finis.
Oui, allez-y.
Et je finis sur les fonds d'urgence. Parce que moi, ça me fait rigoler, les fonds d'urgence. Les fonds d'urgence, tu les touches 6 mois après. C'est jamais, en fait.
Alors que c'est urgent.
Ça n'arrive pas sur ton compte en banque le lendemain, ou dans une semaine, ou dans 3 semaines, ou dans 1 mois, ou dans 6 mois.
Oui, c'est vrai.
C'est fait pour.
Il y a beaucoup de problèmes.
C'est fait pour calmer une grogne sociale. C'est rentrer chez vous, rentrer dans vos élevages, etc. Il y aura des fonds d'urgence. C'est toujours des promesses. Et puis, dernièrement, c'est à faute à quoi, en fait, tout ce système. Hein, je te rappelle, la France, dans les années 80, c'est la troisième puissance agricole. Aujourd'hui, c'est la sixième puissance agricole. Il y a une production agricole chaque année de 81 milliards. Donc, on a beaucoup reculé depuis des décennies. Donc, en fin de compte, c'est la faute de l'Europe. C'est la faute du libre-échange.
Je lance la première pause de tout de suite, là, maintenant. Il est 19h15, précisément. Et on se retrouve dans une minute. Et bien sûr, je vous redonne la parole, Nabil Etakache. John aussi, également.
Ouais,
0153. Bien sûr. 0153 48 3000. Vous nous appelez et vous passez en direct. C'est les informés des quartiers. C'est tout de suite. C'est maintenant. Restez avec nous. Ne bougez surtout pas.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h, 20h. Les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés des quartiers avec Maître David Libeskind, avec Nabil Etakache, et enfin avec John, l'ancien figure des Gilets jaunes. Messieurs, vous pouvez nous appeler au 0153 48 3000. Il est 19h20 précisément. Nabil Etakache, je vous donne la parole effectivement avant de passer à l'autre sujet et d'accueillir tout à l'heure Véronique Lefloc, qu'on a eu à... On vient de l'apprendre à l'instant, elle est en réunion, puisque vous le savez, les agriculteurs sont en train de décider s'ils poursuivent le blocage ou pas. Nabil Etakache.
Alors, Maître Libeskind disait quelque chose de très vrai. Il y a à l'instant, on s'est opposé sur beaucoup de choses, mais sur ça, je suis d'accord. Dans les années 80, la France était une grande puissance agricole. Elle reste une puissance agricole, mais aujourd'hui, elle est concurrencée. Si vous voulez, le libre-échange, parce qu'il met tout... alors là, on n'est pas d'accord, en revanche, c'est qu'il met tout sur le dos du libre-échange. Le libre-échange, qu'est-ce que c'est, pour l'expliquer aussi à nos auditeurs, c'est le fait que les nations, les pays... commerce librement, sans entrave, qu'elles puissent échanger leurs produits sans droit de douane, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc ça a favorisé les agriculteurs français dans les années 80. Mmh. Parce que nos agriculteurs, à l'époque, ils gagnaient des marchés. Ils allaient vendre dans toute l'Europe de l'Est qui venait de s'ouvrir après la chute du mur, après l'effondrement de l'Empire soviétique. Bref, donc nos agriculteurs ont bénéficié à un moment de la mondialisation et du libre-échange. Mmh. Aujourd'hui, ils en bénéficient moins. Pourquoi ? Parce que vous avez des pays qui produisent aussi. L'Espagne, le Maroc, oui. le Brésil, qui sont aussi devenus des puissances agricoles. L'Ukraine. Et qu'est-ce qu'on fait ? Donc nos agriculteurs, aujourd'hui, ils font face à cette concurrence-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on achète à 100% des produits français qui coûtent plus cher pour le consommateur, ou on laisse rentrer des produits qui coûtent moins cher ? Là où il y a un gros problème, je voudrais juste terminer, c'est le dernier point, là où il y a un gros problème, c'est que nous, nos agriculteurs, ils font tout pour avoir l'agriculture la plus durable et la plus protectrice de l'environnement. Mais, en Amérique latine, ils n'ont pas les mêmes normes. Ils s'en foutent de l'environnement. Donc, ils font de la production sans normes, sans contraintes, et ensuite, ils nous envoient leurs produits. C'est pour ça que la France est contre la signature. Gabriel Attal, le Premier ministre, a rappelé aujourd'hui que la France ne soutient pas le traité du Mercosur, qui est un traité de libre-échange.
Ils ont signé d'autres traités. Hein,
c'est l'Union européenne. Mais la France s'y oppose.
Alors, il y a un bon Maître David Libeskind, ensuite, vous répondez.
Alors, moi, je suis pour le libre-échange quand tous les pays respectent les mêmes normes.
On est d'accord.
En fait, bah oui, mais là, c'est pas du tout le cas.
Mais c'est pour ça qu'on est contre.
Non, mais laisse-moi parler, s'il te plaît. Quand tu importes des produits agricoles ukrainiens, ils sont pas soumis aux normes européennes. Quand tu importes des produits de Chine, c'est pas soumis aux normes européennes, notamment aux normes environnementales. Voilà ce qu'il faut, c'est la concurrence. Pareil, les coûts de production, comme tu disais tout à l'heure, la main d'œuvre est beaucoup moins chère en Chine qu'en France. Donc moi, une société comme ça de libre-échange, où tout le monde est dans une situation différente. Non, pour moi, c'est pas viable. Et je crois que les auditeurs peuvent le comprendre.
Mais je pense que les auditeurs peuvent comprendre aussi quand ils voient, par exemple, dans nos pays d'origine, pardon de dire ça, moi je vois, par exemple, en Algérie, c'est un pays qui est beaucoup sur l'autosuffisance, etc. Au final, vous regardez, il y a une inflation qui est galopante en Algérie, vous achetez un kilo d'oignon, c'est exactement ce qui pourrait se passer en fait en France. Donc, c'est le libre-échange qui nous protège. Voilà, tout simplement.
Oh là là, bah,
qui nous, non, mais qui nous protège d'avoir une con...
je crois que
des produits
sont
moins
pas
chers.
D'accord, hein, tu vois.
John, comment on l'a
qui entraîne de la pauvreté
s'il vous plaît.
Croissante.
John.
Moi, tout ce que je vois, c'est que les agriculteurs, bah, ils sont lésés au final, que on a des discours de politiciens bien propres sur eux, voilà, tout simplement, qui vendent du rêve aux gens depuis des années. Pas que depuis Macron, hein, bien avant Macron. Et Macron, voilà, il est venu, il a signé pour vendre la France, tuer le pays. Il est dans son rôle. Et voilà, il ira jusqu'au bout. Il va détruire la France.
Il va la vendre à qui?
Vous n'exagérez pas un peu, John? Non, mais... tuer la France.
Franchement, qu'est-ce que,
mais... Au Martien, élu savez... pour être tué la France. C'est beaucoup.
Non, c'est dur
à entendre ça.
Il est là pour ça.
Un peu quand même, non?
Il est là pour ça. Non, je suis pas complotiste. Je dis juste que voilà.
C'est un peu complotiste quand même.
Oui, complotiste, bah, d'extrême droite, bien sûr.
Non, Macron, mais... il s'est pas dit, allez, je...
Regardez, moi,
je vais vous dire, l'industrie française, il l'a vendu, Macron.
Mais à qui? Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Mais vous dites...
Bah,
mais...
Tom Sawyer.
Bah, si, bien sûr que si.
L'industrie française, c'est Tom Sawyer. Non, mais moi, c'est très difficile de vous répondre. Non, parce que vous êtes dans le complotisme et la fausse information.
Mais l'industrie, en fait, c'est...
Non, mais est-ce que l'industrie se résume à tous les mêmes, en fait?
Je vais donner un exemple.
Vous êtes les mêmes, les
macronistes. Non, mais il n'y a pas d'autres exemples, en fait, depuis 10 ans.
Non, mais c'est pas vrai.
Mais en gros, vous racontez exactement la même chose depuis des années. Vous vendez du rêve aux gens, et au final, ça
date des socialistes. John, on ne s'entend pas vraiment un par un, parce que sinon, le problème, c'est que moi...
Restons sur l'agriculture.
Allez-y, maître.
Non, je suis désolé. Alors, là où je suis d'accord avec John, c'est qu'on a l'impression, en fin de compte, que... nos gouvernants depuis des décennies, il n'y a pas que Macron, mais Macron de toute façon il a fait, il savait pas
il
que
c'était. Oh, on peut pas pouvoir. Dire que Macron il est là pour assassiner la France.
Non, il a
longtemps de ce genre.
Non, mais laisse-moi finir.
Je pense que vous savez,
parce que Macron il est au pouvoir depuis quand même plus de 7 ans, parce qu'il a été ministre de l'économie sous Hollande. En fait, ils ont contribué, tous ces gouvernants, en fait, à désindustrialiser la France. Et depuis quelques mois, maintenant, ils se réveillent. Oui, il faut faire renaître
notre industrie. Les agriculteurs, on va leur donner.
Et moi, ce que j'aimerais pas, en fait, c'est que nos agriculteurs subissent le même sort. Parce que faut dire ce qu'il y a, c'est aussi l'Union européenne. Il y a le carcan administratif.
Attention,
c'est
on va traiter d'extrême droite.
Assez classique. Mais c'est pas parce qu'on va alléger les formalités administratives qu'ils vont mieux aller. Faut dire ce qu'il y a. Bon après ouais, voilà, c'est gênant dans leur activité, mais ce qui est gênant, mais c'est comme l'électricité, c'est le problème, c'est l'Union européenne,
c'est ça,
c'est l'Union européenne. La France, tu parlais de l'Algérie, en fait je suis pas certain que si la France autosuffisait, ça augmenterait les prix.
Allez,
forcément.
Messieurs, nous allons tenter d'avancer.
Si,
alors, bonne nouvelle d'abord, c'est que on va réussir tout à l'heure.
Hein.
On a retrouvé Véronique Le Floch qui était en pleine réunion. Donc effectivement, ils sont en train de décider à savoir s'ils poursuivent le blocage donc les agriculteurs partout en France. Hein, vous savez, la France est un peu paralysée en quelque sorte. Valérie Le Floch, qui est la présidente de la coordination rurale de France, dans une poignée de minutes. Pierre-Henri, Céline, t'as vu, c'est parti.
Les informés. L'interview.
L'interview, on va parler, vous savez quoi, de ce second sujet, messieurs. C'est la loi immigration. D'autres blocages aussi se sont organisés en Seine-Saint-Denis. Pierre-Henri, bonjour. Vous êtes le patron, le président de France Fraternité. Bonjour, monsieur le président. Comment ça va?
Bonjour, Adil. Ça va très bien. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Beurre FM.
Absolument. Vous deviez être avec nous sur le plateau ce soir. Absolument. Mais compte tenu, évidemment, la difficulté à venir jusqu'à la radio, hein, parce qu'on sait que les autoroutes sont fermées, sont bloquées. Vous remercie d'être avec nous à l'antenne. Pierre-Henri, tout d'abord, comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris le verdict tombé hier concernant le Conseil constitutionnel alors il avait l'air de tenir un discours un peu en décalage avec le gouvernement, le patron du Conseil constitutionnel, hein, comme s'il était un peu déçu. Ah ben, il était content mais pas content.
Non mais la décision du Conseil constitutionnel était attendue et elle n'offre pas de surprise. Je vous rappelle qu'il y avait 86 articles dans cette loi et que le Conseil constitutionnel, on a examiné environ 70 et sur ces 70, il en a rejeté 37, 31 pour des raisons de ce qu'on appelle des cavaliers législatifs, c'est-à-dire en réalité les parlementaires avaient introduit dans la loi des choses qui étaient sans rapport avec le projet de loi initiale. Là, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur le fond, mais ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est la chose suivante, c'est que les mesures les plus dures ont disparu du texte en étant jugées inconstitutionnelles. Par exemple, l'accès aux prestations, à un certain nombre de prestations sociales, comme l'allocation jeune enfant, comme les allocations familiales, comme les allocations logement, qui avaient été proposées par LR d'être portées à 5 ans de résidence dans une espèce de préférence nationale, bah, tout ça a été balayé, comme a été balayé le fait, par exemple, du droit de la nationalité, c'est-à-dire d'imposer aux jeunes gens vivant en France depuis 11 ans de faire une déclaration pour devenir français. Voilà, donc le droit du sol est conservé, la préférence nationale est repoussée, et puis vous avez vu derrière cela, évidemment, la réaction d'un certain nombre de politiques avec des formules qui sont totalement...
Pierre-Henri, je voudrais juste vous poser la question parce que justement, je vous vois arriver. Est-ce qu'il y a des perdants et des gagnants quand on voit la décision du Conseil constitutionnel?
Et moi, je vais vous dire, il n'y a que des perdants dans cette affaire parce que un an et demi de débat sur des bases totalement viciées où on a parlé d'immigration, d'insécurité, d'islam... c'est pas une base très sérieuse pour aborder les questions d'immigration qui sont des questions complexes. Et ce que je remarque, c'est que les formations politiques ont joué avec le feu. Toutes, parce que, fait assez inédit, elles ont adopté un projet de loi qu'elles savaient inconstitutionnel. Et donc derrière cela,
Pierre-Henri, le chef de l'État, Emmanuel Macron, il le savait. Donc finalement, il est gagnant dans cette histoire, puisque il a fait un coup. Il savait d'entrée à l'avance que le Conseil constitutionnel allait retoquer. Mais donc il savait.
Personne n'est gagnant.
Personne n'est gagnant, y compris le chef de l'État.
Mais attendez, c'est une victoire à la Pyrrhus, parce que regardez ce que.
Il le savait, Emmanuel Macron, en faisant ça, il le savait, Emmanuel Macron.
Oui, mais Éric Ciotti le savait.
Oui.
Retailleau le savait,
oui.
Ils ont joué avec le feu et aujourd'hui ils se permettent pour un certain nombre d'entre eux, notamment chez les LR et le Rassemblement National, de dire quoi? De dire c'est un coup d'État du Conseil constitutionnel. C'est quand même absolument hallucinant. Dans la démocratie, il est normal que le Parlement soit contrôlé. Et aujourd'hui, un certain nombre de gens, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des choses, veulent remettre en cause cela.
Bon. Merci infiniment, Pierre-Henri, d'avoir été avec nous. Effectivement, merci à vous et au plaisir de vous retrouver dans nos studios.
Dès que les routes se débloquent.
Absolument, nous saurons ça tout à l'heure. Merci infiniment, Pierre-Henri, qui est le président de France Fraternité. On va marquer cette seconde pause et on se retrouve pour la dernière ligne droite avec Nabil Etakash, Maître David Libeskind et enfin John, l'ancienne figure des Gilets jaunes, pour vous parler de cette loi immigration. Et j'espère qu'on aura enfin pris attache avec Véronique Le Floch, la présidente de la coordination concernant la ruralité, la coordination rurale de France. À tout de suite.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h, Les Informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
Les Informés des quartiers, 19h36 précisément, avec Maître David Libeskind, avec Nabil Etakash et enfin John. Messieurs, tiens, je vais ouvrir l'antenne 01-53-48-3000. Nous allons accueillir dans une poignée de minutes, je l'espère quand même, cette fameuse présidente de la coordination rurale des agriculteurs. Loi immigration, vous avez suivi évidemment tout ça. Alors, je ne vous l'apprends pas, il y a eu ce blocage en Seine-Saint-Denis, mais aussi un peu partout. John, qu'est-ce qu'on peut dire de cette décision du Conseil constitutionnel? Vous avez entendu le président de France Fraternité tout à l'heure, Pierre-Henri.
Bah, moi, franchement, je vais vous dire la vérité, j'ai pas vraiment suivi l'actualité par rapport à ça. Pour moi, ils s'étaient mis d'accord, en fait, dire avec Elisabeth Borne, donc les Républicains, l'extrême droite s'étaient mis d'accord. Je pense.
S'étaient mis d'accord.
Bah, il non, s'est, il y a il LR, Renaissance.
Renaissance, ouais, voilà. Ouais, ils s'étaient mis un peu d'accord sur certaines choses. Je pense, moi, de mon avis personnel, que Renaissance se doutait quand même que le Conseil d'État allait retoquer certaines choses. Conseil constitutionnel, pardon. Et ils allaient retoquer certaines choses. Donc, au final, je pense que Macron, il voulait cette loi. Au final, elle est passée avec toutes les choses négatives pour lui rejetées. Mmh. Donc pour moi, il est plutôt gagnant, entre guillemets, ouais, de ce qui s'est passé. Après, est-ce qu'il est satisfait à 100%, je ne sais pas. Mais voilà, c'est mon point de vue, il est là. Mais personnellement, est-ce que ça changera le cours du soja? Je ne pense pas.
Ouais. Maître David Hibiscuit. Il y a quand même
deux aspects. Je pense que Emmanuel Macron est gagnant.
Je vous arrête parce que vous savez quoi, ouais, on a réussi enfin. Donc c'est pour ça que je vais profiter. Priorité au direct, comme on dit. Hein, comme on dit. Effectivement. C'est parti pour l'interview.
Les informés. L'interview.
L'interview avec Véronique Le Floch. Bonjour Véronique Le Floch.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous dans Les Informés. Vous êtes la présidente de la Coordination Rurale de France. Merci, madame la présidente, d'être avec nous. Tout d'abord, comment on a envie de savoir, on vient de débattre avec les débatteurs influenceurs ici qui sont autour de ce plateau, les annonces de Gabriel Attal, du Premier ministre. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce que vous avez pris une décision et quelle est votre réaction face à ces annonces, à ces mesures concrètes?
Alors, réaction totalement insuffisante et décision, elle sera prise demain matin. Mais en l'état des choses, les agriculteurs qui sont sur les lieux de rassemblement restent en place et les rassemblements qui doivent encore se mettre en place à partir de ce week-end et dès lundi vont continuer à l'être tant que les quelques points qu'il manque ne seront pas satisfaits.
Madame la Présidente, donc vous me confirmez en direct que les agriculteurs, vous continuerez à paralyser et à vous mobiliser avec la même colère et le même mot d'ordre.
Je pense que les spectateurs n'ont pas forcément tous vu les télés, mais on voit la colère qui reste. Vous regardez à Agen, ce sont des agriculteurs de la coordination rurale. Beaucoup parmi eux sont touchés par la grippe aviaire. Et cette maladie qui touche toutes les volailles, aucune mesure n'a été annoncée. On aurait pu s'attendre à ce que tous les dossiers soient soldés et pas dans les semaines à venir, mais immédiatement. Tout ça, ce n'est pas satisfaisant. Il manque des choses par rapport à la nature. Autant nous, les agriculteurs.
Qu'est-ce que vous dites sur la suppression, par exemple, de la hausse de la fiscalité du GNR, par exemple? Voilà, quelque chose de concret par les mesures annoncées tout à l'heure par le Premier ministre.
Alors, suppression de la hausse de la fiscalité, ça veut dire statu quo, puisqu'en fait, la mesure validée avait été validée par la FNSEA et Bruno Le Maire. Donc, on reste sur un statu quo, alors même que nous avions demandé une exonération totale du gasoil agricole, c'est-à-dire un gasoil détaxé. Cela aurait permis d'avoir un certain avantage en termes de trésorerie, surtout qu'on sait que on a l'électricité et toutes les autres choses qui vont continuer à augmenter.
Autre sujet, le fonds d'urgence, madame la présidente, pour les éleveurs, par exemple. Vous répondez quoi au Premier ministre?
Eh bien, là encore, on est en train d'augmenter la prise en charge des charges exceptionnelles liées à cette maladie, alors même que vous avez une baisse de produits. Donc, les agriculteurs seront quand même en déficit pour certains. Donc, il y a un réel souci. On est capable d'intervenir au moment du Covid avec une prise en charge immédiate à hauteur de 80-85% des chiffres d'affaires manquants. Et chez nous, les agriculteurs, il va falloir encore faire, parce qu'ils ne l'ont pas dit, des dossiers, continuer à approuver. C'est ça qu'on aurait aimé aussi entendre.
Dites-moi, Madame la Présidente, je vais donner la parole à un représentant de Renaissance qui souhaiterait échanger avec vous. Il a une question à vous poser.
Oui, bonsoir madame. Déjà, l'enjeu, je le comprends, je le mesure, il est immense et ces mesures ne vont pas être encore tout à fait peut-être à la hauteur de ce que vous attendez et je le comprends. J'ai juste une question sur le fonds d'urgence de 50 millions. Vous disiez qu'en fait, ça ne va pas permettre d'indemniser les producteurs parce qu'il est fait pour ça, notamment pour ceux qui ont, pour les agriculteurs qui ont eu des problèmes en Bretagne, je crois, liés aux tempêtes. Pour cette maladie qui touche, je crois, les bovins. Donc, a priori, ce fonds d'urgence doit quand même venir soulager les producteurs, non ? Enfin, c'est vraiment une question pour comprendre.
Véronique Lefloc, Madame la Présidente, allez-y.
Pour que les spectateurs comprennent, est-ce que cette mesure de 50 millions d'euros a été évaluée en fonction d'un besoin ? Est-ce qu'on s'est dit que ça correspondait à 10 000 agriculteurs touchés et ça ferait seulement 5 000 euros par exploitation ? C'est ça qu'on a besoin de savoir. Parce qu'en général, 50 millions d'euros, ça correspond à une somme qui peut paraître importante. Mais quand on la ramène au nombre d'agriculteurs touchés...
Raison. Non, vous avez raison. Je sais que ça peut paraître comme ça, enfin des chiffres. Je sais que c'est un fonds de 50 millions d'euros, que c'est très limité au regard des
Alors,
enjeux.
Soyons concrets. Allez-y, une dernière.
Mais je pense que ça va être détaillé, là, toutes ces questions. Parce que vous disiez que les agriculteurs n'allaient pas pouvoir en bénéficier. Les producteurs de volailles, pardon.
Eh bien, écoutez, moi, j'ai entendu parler que de la MHE, donc cette maladie hémorragique, hein, alors même que les éleveurs touchés par la grippe aviaire ne vont pas dépendre de cette enveloppe.
Attendez, monsieur Aitakash. Attendez, s'il vous plaît, parce que j'aimerais quand même qu'on distribue un peu la parole. Vous avez John, ancienne figure des Gilets jaunes, qui souhaiterait aussi compléter peut-être ce que vous disiez. John, allez-y, John.
Non, moi je dis que je comprends déjà totalement la colère et l'inquiétude des agriculteurs, peu importe dans le territoire français. Juste, j'espère que vous n'allez pas vous laisser amadouer par un beau discours dans un beau costard, madame. Sachez que ils ont reproduit exactement ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes. Ils font semblant d'écouter, ils font semblant de comprendre. Donc moi, je vous dis, ce que vous faites, c'est exceptionnel. Continuez, ne lâchez rien. Et nous, on sera tous dans la rue avec vous.
Madame la Présidente.
Merci du soutien. En tout cas, on n'est pas du genre à lâcher et on n'est surtout pas hypocrite.
Dernière question, naïve, vous a répondu. Dernière question, Véronique Lefloc, Madame la Présidente, justement. Dites-moi, qu'est-ce que vous attendez concrètement de Gabriel Attal aujourd'hui, ce soir ?
Il a tout dit ce qu'il avait à dire.
Oui.
Il manque des choses. Et est-ce qu'il va nous solliciter pour voir notre satisfaction ? Ou est-ce qu'il se contente de balancer ça à la télé sans même prendre contact avec la coordination rurale et les autres syndicats minoritaires ? Est-ce qu'il a décidé ça conjointement avec la FNSEA, encore une nouvelle fois sous forme de cogestion ? Qui a décidé de ces mesures ? Lui seul ? Encore une personne qui n'est pas de terrain qui décide ? Et c'est ça le souci, parce que nous, on attendait des mesures, par exemple, comme un engagement pour demander des dérogations par rapport au classement de certaines espèces de la faune sauvage. Oui. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, certaines espèces ne sont plus en voie de disparition et n'ont pas lieu de rester protégées ou hyper protégées. Mmh. Et qu'il faut une régulation. Parce que ces espèces coûtent plus cher, que ce soit à l'État ou à la société de chasse, pour indemniser les dégâts suite à l'intervention des choucas, du loup et autres. Et ça, c'est pas normal. C'est un mauvais calcul. Et donc, ce signal n'a pas été apporté.
Merci Véronique Lefloc d'avoir été avec nous et de nous avoir appelé. En tout cas, on le sait désormais ce soir que le blocage et la colère continuent durant tout ce week-end et on en saura un peu plus, peut-être certainement lundi matin. On est d'accord ?
Alors, les blocages qui sont à l'initiative de la coordination rurale ou à certains groupes où nous sommes en intersyndicale. J'ai entendu, par contre, dans l'Oise et ailleurs, où la FNSEA appelait à lever les blocages et à rentrer. Donc, en fait, nous, on n'a pas été associés aux négociations jusqu'ici. Donc, nous avons encore des points qui ne sont pas satisfaisants. Et dans tous les cas, j'attends cette discussion pour voir s'ils sont prêts ou pas à rajouter ces points.
Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale de France. Merci d'avoir été avec nous, madame la présidente.
Merci à vous. Bonne soirée.
Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire, maître David Ebeskid ?
Je tenais quand même à préciser que la FNSEA,
oui,
C'est le syndicat majoritaire dans la profession agricole, quoi. Tout simplement. Et qu'effectivement, il y a une vieille habitude contestable de cogestion avec le gouvernement.
Mais... Alors, revenons maintenant qu'on a réussi.
Le gouvernement ne fait pas
alors,
que des mauvaises choses pour le monde agricole.
Sur la loi immigration, je ne vous ai pas entendu, s'il vous plaît, Nabil et Takash.
Oui, sur la loi immigration, moi je me satisfais de la censure par le Conseil constitutionnel de mesures qui n'avaient rien à faire dans cette loi. Personnellement, moi, il y avait beaucoup de choses qui me mettaient très mal à l'aise. Pierre-Henri tout à l'heure les a rappelées et c'est très bien que ce soit que ça ait été expurgé du texte. C'est le texte pour rappeler.
Et c'est macroniste qui le dit.
Oui, non mais pour rappeler à nos auditeurs qu'à la base le texte tel qu'il a été revu par le Conseil constitutionnel.
Ça vous fait plaisir, ça, maître.
C'est le. Non. Ah pardon, je voudrais juste dire, c'est juste le texte qu'avait proposé le gouvernement à la base et qui avait été complètement dénaturé par les LR. Et l'extrême droite. Simplement, rappelons qu'on est dans un contexte alors, de majorité
répondait,
relative.
Qu'est-ce qu'on répondait à Eric Ciotti qui dénonce un hold-up démocratique?
Moi, un parti républicain comme comme les LR qui viennent remettre en question nos institutions, je trouve ça grave. Le Conseil constitutionnel empêche, comme le disait très bien tout à l'heure Pierre-Henri, de faire n'importe quoi.
On pourrait douter quand même des gens qui siègent au Conseil.
Pourquoi? Mais vous jetez de la suspicion
non,
sur tout le monde.
Oui, on pourrait
les gens.
Douter.
Les gens ne sont pas. Non, mais monsieur, en fait, vous devriez aller voir dans d'autres pays ce qui se passe, des dirigeants qui ne connaissent pas l'intérêt.
Je pense que dans notre pays,
il y a des problèmes.
On parle de la France.
On parle de la France.
Mais
dans notre pays, je pense que les gens connaissent un minimum les intérêts des concitoyens.
Maître,
alors, plusieurs aspects. Le Conseil constitutionnel, comme dit John Barlow, le laisse entendre, c'est plus une juridiction judiciaire. C'est une juridiction politique puisque ces membres sont nommés par le président du Sénat, président de l'Assemblée nationale et président de la République. Donc voilà, donc c'est une nomination politique. Deuxième élément. Deuxième élément. Non mais je sentais que tu allais venir. Deuxième élément, en fin de compte, c'est une victoire juridique, hein, la décision du Conseil constitutionnel, parce qu'effectivement, en fait, beaucoup de mesures étaient inconstitutionnelles et injustes.
Et oui.
C'est une mesure. Donc c'est une victoire juridique. C'est une victoire juridique pour les travailleurs sans papier, dont certains vont pouvoir être régularisés. En revanche, c'est un échec politique. Alors pourquoi c'est un échec politique pour le gouvernement? Parce que, en fin de compte, il a été fragilisé. On l'a bien vu dans les discussions de ce projet de loi. Il a fallu qu'il se plie à LR. Donc ça reste quand même une majorité. Renaissance qui est très fragile.
Et maintenant, les LR,
une majorité on ne découvre pas qu'on est en majorité relative.
Les LR vont l'avoir mauvaise,
mais c'est leur problème.
On a vu en fin de compte qu'ils ont cédé.
Ça peut tomber.
En fait, ils ont cédé aux parlementaires LR, aux revendications, pour que la loi puisse passer. Et ça a divisé Renaissance, puisque l'aile gauche est en fin de compte.
Moi, je fais partie des gens chez Renaissance qui étaient très mal à l'aise avec les mesures.
La majorité
ça m'a pas divisé. J'ai des amis députés qui m'ont dit, en tant qu'enfant d'immigrés, je ne pouvais pas, qui se sont abstenus ou qui ont voté contre. Il n'y avait pas que des enfants d'immigrés d'ailleurs.
Nadia, par exemple, l'a assumé.
Voilà, exactement.
En direct qu'on l'a reçu, elle a dit non, j'ai voté contre.
Moi, j'ai une amie qui est franco-française. Elle m'a dit, moi, je ne pouvais pas voter ça, c'était pas possible. En tant qu'avocate, elle me disait, moi, je ne peux pas voter quelque chose qui est complètement inconstitutionnel. Donc ça a divisé, certes, mais à la fin, ce qui compte, c'est qu'on ait les moyens.
Puisque la première ministre a sauté, l'ancienne première ministre.
Mais non, elle n'a pas sauté pour ça. Qu'il fallait mettre fin à une séquence de deux ans et relancer un peu.
Surtout une vingtaine de 49.3, il fallait qu'elle parte. Mais
messieurs, ce que je vous propose, il nous reste quelques minutes, s'il vous plaît. Quelques minutes pour aborder, vous savez, un sujet. C'est celui de Gabriel Attal sous un autre angle. C'est celui outré, mais impuissant. Alors, il voit celle qui lui a succédé, je parle de Ruth Grenelle, hein, ministre de l'Éducation nationale, provoquer le tremblement de terre en ce moment même, y compris la polémique concernant cette gouvernance. Et alors, il souhaite qu'elle s'en aille. Ça, c'est Gabriel Attal.
Oui,
il est outré. Alors, John Barlow.
Lui, il ne peut rien faire. C'est Macron qui décide. C'est Macron le patron. Oui, mais c'est Macron le taulier. On sait très bien que Macron, il a toujours mis des.
En gros, il ne peut pas la virer.
Il a toujours mis des gens qui sont, on va dire. J'emploie un mot qui va pas plaire à Nabil, mais le pantin de Macron. C'est Macron qui décide.
C'est le pantin, Nabil, cache.
Si Macron décide.
Je vais pas avoir le même langage que.
Si Macron décidait de virer la ministre, il la virerait.
S'il la vire pas,
vous êtes en train de me dire que Gabriel Attal peut pas la virer.
Non, il peut pas la virer.
Non, c'est faux. Enfin, moi, je
il peut la virer
dessus,
Nabil Attakache ou pas?
Non. C'est Macron qui aura le dernier mot.
Attends, on va écouter la réponse. Il peut la virer ou pas?
Le gouvernement, je crois que c'est l'article 21 de la Constitution, il est formé par le Premier ministre.
Bah, il
donc, il est dirigé par le Premier ministre. Il détermine et conduit la politique de la nation. Tout à fait. Mais sous la responsabilité donc du Premier ministre. Donc, il peut discuter de ça avec le président de la République. Mais moi, je sais pas. Je veux pas vous dire qu'il doit la virer ou pas la virer. Il y a eu beaucoup de couacs. Je ne sais pas comment ça
fait beaucoup
terminer.
Quand même. Hein.
Ouais,
bah, alors, maître David Lebesgue, vous dites quoi sur
J'entends les réactions, beaucoup ne sont pas contents.
Et vous, vous n'êtes pas content? Vous?
Moi, personnellement, écoutez, je n'ai pas, pas à juger, mais c'est vrai que c'est. Il y a eu des déclarations il y a des déclarations quand même qui sont assez problématiques. Mais je trouve qu'on est en train de feuilletonner un épisode.
Non, c'est pas feuilletonner. Le problème, c'est qu'elle est.
Je rends l'antenne. D'une phrase.
Flagrant délit de mensonge.
D'une phrase. Je vais la place à la ministre.
D'une phrase. C'est bon. Merci infiniment. Merci, Nabil Attakache. Merci.
Merci à Dieu.
Merci à Maître David Lebesgue. Merci à John Barlou.
Merci
à la réalisation. Merci à vous surtout.
Merci.
Très bon débat comme chaque soir d'ailleurs. Nous allons passer un week-end évidemment à continuer à vivre avec Beurre FM. Ça, c'est ce que je vous invite à faire. Merci à la réalisation à Solal, Bilal Lenman, yes. Time Sport, Vanessa, 21h-23h avec Confidence de ce week-end, tous les programmes à ne pas manquer, y compris avec l'application Beurre FM. Quant à moi, lundi, avec autant de plaisir, hein, vous le savez, dès 19h, mais surtout.
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.